édition du 24 octobre 2018 d'Eve et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici Audrey Gosselin-Pellerin à l'animation en compagnie de Laurence Morin et de Marianne Théberge-Guyon en studio. On a aussi avec nous Tamara Filiavitch à la mise en onde. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leurs expériences. Eve et Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk non cédé. Il est un peu plus de 18h et aujourd'hui à l'émission, quatre joueuses chevronnées seront des nôtres pour un match d'impro en direct dans nos studios. On discutera par la suite avec elles d'improvisation au féminin. Puis, on s'entretient avec Marie Darcigny, l'autrice de 30, un récit féministe racontant la dernière année de sa vingtaine à l'aube de son potentiellement fatidique 30e anniversaire. Donc, on a un bon 60 minutes de fréquence féministe en perspective et ça commence maintenant. Et pendant qu'on entend notre thème, la pièce Incendie de Julia Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'Eve et Pandore est aussi disponible en balado-diffusion. Vous y retrouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur l'enfantement, l'autisme au féminin, le cycloféminisme. Donc, vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Eve et Pandore. Donc, on va passer tout de suite en musique avant d'accueillir nos improvisatrices. Écoutez Duvido de la chanteuse congolaise Mpongo Love sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est C'est le temps d'accueillir nos quatre improvisatrices qui se prêteront au jeu aujourd'hui. Alors, on les applaudit très fort. D'abord, Roxane Geffroy. Roxane a fait ses débuts en impro au secondaire en Ontario. Elle a poursuivi à l'université et se confronte depuis plusieurs années aux autres joueuses et joueurs de la Ligue Bisbille aux Asbards. On accueille aussi Geneviève Fortier. On l'applaudit. Geneviève a commencé l'improvisation à Saint-Hyacinthe dans la Ligue Lalais. Elle a fondé la Ligue La Liche au cégep de Saint-Hyacinthe avant de continuer l'impro à l'université. Après avoir papillonné au sein de plusieurs ligues montréalaises, elle joue désormais à la Bisbille, elle aussi, de même qu'à la Limbo. Et puis, on poursuit avec Frédéric Lemay. On l'applaudit. Frédéric a débuté l'impro dès le primaire. Elle a poursuivi au secondaire et, bien sûr, au cégep. Elle joue toujours aujourd'hui dans les ligues de bord et elle coach aussi une équipe d'impro cadette au sein du réseau du sport étudiant du Québec. Et finalement, la dernière et non la moindre, Ariane Charest. Bienvenue, Ariane. Donc, Ariane improvise depuis une quinzaine d'années déjà. Elle a débuté au secondaire et elle a aussi joué au sein des réseaux collégial et universitaire, puis dans les ligues de bord. Bienvenue, mesdames.
Merci.
Donc, Marianne, tu nous expliques comment on va procéder pour le match?
Oui, merci Audrey et merci à nos quatre improvisatrices d'avoir accepté de relever le défi. Vous êtes des femmes courageuses parce qu'improviser à la radio, c'est un défi supplémentaire, il faut le mentionner. Ce soir, on a le temps pour un micro-match d'improvisation qui va comporter trois impros. On a même un public ici en studio. Donc, public, vous aurez la lourde tâche de voter ce soir de manière impartiale pour la meilleure improvisation. Je vais être l'arbitre pour les fins de la cause et je pigerai les thèmes pour ajouter du piquant. On a donc formé deux équipes qui vont performer ce soir pour vous, public radiophonique en délire, et pour vous aussi, public en studio. À ma gauche, les mots à rayures noires, j'ai nommé Geneviève Fortier et Roxane Geffroy, mesdames et messieurs.
Gros cri d'équipe, Geneviève.
À ma droite, les noms moins excellentes, jaune, carotte et verte, j'ai nommé Frédéric Lemay et Ariane Charest. Sans plus tarder, commençons avec la première improvisation de ce match. Il s'agit d'une improvisation comparée, ayant pour thème le coin. Nombre de joueuses, une seule par équipe. Catégorie libre, d'une durée d'une minute de chaque côté. Caucus. Les mots varayures. Mots varayures, voulez-vous commencer ou laisser commencer?
Eh bien, nous allons regarder en premier.
Écouter,
apprendre.
Donc, le coin pour une minute.
Jérémy en a marre, il méritait! Il méritait tellement, il gosse, là! Ah, il gosse! Et mes cœurs, là, tout le temps, il faut habiller fou la mode, là, c'est un cœur! Ok, t'aurais peut-être pratiqué mes excuses, parce que sinon, me rester ici, maudit bout de la tournée. Ok, je m'excuse, Jérémy, de t'avoir tiré les cheveux. Et d'avoir déchiré tes vêtements. Et d'y avoir mis le feu. En faisant un rituel dans la cour d'école. Et d'avoir sacrifié ton chat pendant ce rituel. Je l'ai éventré. Je m'excuse. Je m'excuse, Jérémy. Je sais pas si ça va marcher, ces excuses-là. C'est peut-être vraiment grave. Qu'est-ce que je l'ai fait? Au fond, je suis peut-être chanceuse de me retrouver juste dans le coin pis pas en prison. Hein? Jérémy? Jérémy, je suis prête à m'excuser, là!
Ouais! Excellent. Maintenant, autour des mots varayures, toujours pour une minute, le coin.
Moi, ce que j'aime, c'est le vendredi soir parce que le reste de la semaine, j'ai pas de vie. Fait que, tu comprends, moi, dans vie, je vais travailler, j'écoute mes programmes, puis je me couche. Mais le vendredi, je vais au bar du coin. C'est coin Saint-Michel et Bélanger. Et il y a une magie qui s'opère là, incroyable. Puis quand je suis vraiment sur le party, c'est-à-dire que j'ai pris 2-3 tequila sunrise, je me laisse aller puis je chante une chanson de karaoké. Moi, ce que j'aime, c'est l'essentiel de Ginette Renaud. Ça, tu fais ça dans le last call, tout le monde sort, tu comprends? Puis j'ai l'air tellement fragile quand je chante ça que c'est ça que je me ramène un gars. En tout cas, si c'était pas du bord du coin, ma vie serait très monotone. Fait que je suis contente de parler à Gilles, puis de chanter, puis de jouer aux loteries vidéo avec modération, toujours, bien sûr.
Sur ces deux très excellentes improvisations publiques, je veux voir voter de manière impartiale les mauves, le point, les jaunes, carottes et verts, la main.
Là là, c'est le moment qu'il n'y a pas de musique. Là 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 là, pendant le vote du public. Là, là.
Donc, le public a choisi les mauves à rayures, les mauves à rayures. Bravo, Gigi, bravo. Pour cette deuxième improvisation, on va y aller avec une improvisation mixte ayant pour thème le dernier repas. Nombre de joueuses illimité, catégorie à la manière d'une émission radiophonique. Ça va être une durée de 2 minutes. Caucus. C'est terminé. Alors maintenant, place à l'improvisation pour 2 minutes, le dernier repas.
Est-ce que tu sens ce que je sens?
Ouais, je pense que je le sens, là.
Et oui, nos chers auditeurs, ce soir, on déguste un spaghetti.
Les pâtes sont cuites! savais-tu que le truc numéro 1 pour les pâtes, c'est les sticker sur un mur, voir là, si ça colle, ça veut dire c'est prêt, si ça colle pas, c'est pas prêt. On va le faire en studio, oui. À la maison, vous allez rien voir.
Écoutez bien la succion.
C'est ça. Ben, ça a collé.
Ah, ça a collé.
Ouais.
Oh, définitivement.
Ça doit être prête.
Les pâtes sont cuites. Ouais. Sinon, si on parle un petit peu là, de la sauce, on a un très beau spaghetti devant nous.
Ouais.
Oh, que dire, de la couleur.
C'est mon genre, j'aime ça. Moi, je suis bien sauce québécoise, là. Tu sais, au Québec, on aime ça, mettre tout dans une sauce, là. Carottes, céleri, tu sais, moi, c'est mon style, j'aime ça constant. Toi, t'as l'air plus fancy.
Ouais, ben, je veux dire, je vais pas me vanter, là, mais parfois, je mets des morceaux de tofu.
Oh, wow!
Dans la salade, wow. Oui, effectivement, c'est...
Moi, j'admire aussi les puristes, là, les Italiens, là, juste tomate.
Oui.
Tu sais... Ça, c'est... J'ai du respect pour ça, moi, la simplicité.
Eh bien, c'est juste malheureux qu'on n'ait pas d'Italiens autour de la table ce soir.
Non, on aurait dû penser.
Je crois qu'il est important de parler en fait, des fourchettes là, qu'on nous a fournies ce soir pour
Ouais.
Juste
ouais.
Aller un petit peu plus loin du micro la prochaine fois.
Oh, excusez, je suis pas encore à l'aise avec l'idée de manger devant un micro...
Non, mais... c'est ça, je pense qu'on va arrêter le concept là, d'inviter des gens à chaque semaine.
Ouais, c'est peut-être...
On va y penser.
Ouais, à revoir, mais cheers, hein, vino! Cling!
Ah oui. Oh, c'est déjà tout! Oh, quelle belle semaine on a passée, n'est-ce pas? Alors, on se revoit la semaine prochaine où on dégustera une lasagne sur
ouais,
notre cuisine.
Toujours sur le thème des pâtes.
Wow! C'était endiablé. Sur cette improvisation, je vais vous demander voter, de voter, hein? Je vais aussi utiliser des déterminants. Les mots varayeurs et la main pour les jaunes carottés verts pour les gens en studio.
Le moment de voter. Le moment de voter.
Alors, on a voté en studio pour les jaunes carottés verts.
Oh, c'est chaud.
C'est chaud. Il n'y aura pas de lavage ce soir.
Donc, c'est 1-1 pour tout le monde, pour ceux qui ont pas suivi là, depuis le début. Donc, la dernière improvisation de ce match sera d'autant plus décisive. Il s'agit d'une improvisation mixte ayant pour thème l'escalade. Nombre de joueuses, une par équipe. Catégorie libre, d'une durée de 2 minutes. Caucus. Maintenant, la fin du caucus. Donc, on y va avec l'improvisation, l'escalade pour 2 minutes. C'est mixte.
Oh, mes leggings sont tellement serrés.
Adeline, je te demanderais de rester positive, là.
Positive pourquoi? Je veux dire, j'aurais pu passer mon samedi soir vraiment ailleurs qu'ici.
Ben, moi, je pense que tu vas apprécier cette activité-là.
L'escalade, j'ai jamais fait ça. J'ai comme fait ça une fois en primaire, au pire. Comme, je veux dire, je suis pas forte, là.
Oui, mais ça se développe, la force, là. Puis là, on va juste sur un mur junior à soir.
Aïe, non, je vais pas faire un mur junior, là. Tout le monde va penser que je suis comme un bébé, là. Non. On s'en va faire un mur de pro si on en fait un pour vrai.
Ben, écoute, c'est pas que je veux te sous-estimer, là. Je suis contente que tu sois orgueilleuse, mm-hmm. mais c'est parce que, Adeline, tu risques de te blesser, là, si on va sur un gros mur.
Un blessé, ça, c'est pas... Ouh, regarde le beau spécimen!
Bon, tu vois, c'est un des attraits de venir faire de l'escalade.
Ah, c'est ça. Hey, tu peux continuer de me parler? Je vais juste regarder ailleurs pendant que...
Ben là, c'est bien insultant si tu m'écoutes pas.
Allez, vas-y. Vas-y, accroche-toi. Ah, il est tombé. Ah, le pauvre chéri.
Ben, si tu fais mal?
Ben, je pense pas. Il est tellement
okay, c'est
fort.
Bon, Adeline, je pense que t'es en train de faire de l'évitement d'activité.
Je sais même pas ce que tu veux dire.
Ben, c'est parce que là, on a loué pour 1 heure.
Ah, mais avoir su, là, genre, je vais débloquer tout mon budget là, pour venir ici à toutes les semaines. C'est pas une grosse affaire, là. Je vais aller les voir, leur proposer des verres, là, d'après escalade. C'est sûr que c'est une affaire, ça, hein?
Ouais, mais faudrait commencer par en faire de l'escalade avant de leur proposer des verres d'après
Faut-il
escalade.
Faut-il vraiment? Je vais juste prendre la poudre puis je vais m'en mettre un peu sur les cuisses, là. Ils vont croire que j'ai monté le mur au complet 3 fois.
Hein? Adeline, elle est où ton estime de toi? T'as pas envie d'être fière de toi?
Sais-tu quoi? Je pense que mon estime de moi, je vais la développer dans mes leggings. C'est ça que je vais faire. Ah, c'est ça qu'on pourrait faire cette semaine. On pourrait aller s'acheter plein de paires de leggings roses. Tu sais, comme des trucs qui attirent l'attention, genre.
Je suis pas si à l'aise dans un legging. Écoute, oui, on peut faire ça si tu montes le mur.
Pourquoi il y a tout le temps des conditions poches? Il n'y a pas moyen d'avoir juste du plaisir avec toi.
Mais moi, j'ai pas de plaisir à être devant un mur puis rien faire.
Moi, c'est beau, monte-le ton mur, là.
Ben oui, mais vas-y en premier, c'est moi qui va te striper.
OK. Go! C'est
un terme d'escalade. On passe maintenant au vote du public. Donc, du côté des Mont-Varayeur, on entendait Geneviève. Et du côté des jeunes karatés vertes, Frédéric. Public, c'est à vous. Soyez impartial.
C'est le temps de voter. C'est le temps de voter.
Oh mon Dieu!
De là.
Mais... C'est une égalité, on
a
égalité,
mais non, voyons donc!
Mais est-ce que tout le monde est victorieux? c'est ce qui m'a fait cette joute.
C'est bien rien qu'à la radio que ça se passe.
Écoutez, c'est le match, et j'allais dire, le match est remporté par les Glorieuses Vertes et les Glorieuses Mauves. Donc, tout le monde est gagnant. De talent en studio ce soir. Merci à nos improvisatrices. Merci au public aussi de s'être déplacé pour ce match éclair.
Bravo, bravo mesdames. Ça a quasiment l'air arrangé avec le gars des vues. Ou pour notre émission, je vais dire la femme des vues, mais bref. Merci beaucoup Marianne, chapeau pour l'animation. Donc dans quelques minutes à Ave Pandore, on s'entretient avec les quatre joueuses que vous venez d'entendre. Tout juste avant, on écoute Habibi Tal d'Al Sara and the New Buttons sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Toujours Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Il est 18h24. Elles ont joué, elles ont pris des risques, elles ont connu toute la gloire. donc, on a maintenant l'occasion de discuter avec ces quatre femmes de leur expérience dans le milieu de l'impro. Alors, Marianne, c'est à toi.
Oui, merci Audrey. Oui, donc je suis toujours avec Geneviève Fortier et Roxane Geoffroy, qui étaient de l'équipe des Monts Varayures Noirs tout à l'heure, et Frédéric Lemay et Ariane Charret, qui étaient des Jaunes Carottes Vertes. Merci encore à vous quatre de vous être prêtés au jeu, et ce, à la radio. Donc, pour celles et ceux qui connaissent moins l'impro, c'est tout un défi de performer sans le feedback d'une salle de spectacle remplie, donc chapeau. pour commencer, j'avais envie de vous demander, c'est quoi être une femme en impro? Qu'est-ce que c'est la différence entre être une improvisatrice et être un improvisateur?
Je pense qu'à prime abord, il n'y a pas de différence tant que ça. On essaie de camoufler, en fait, là, ce genre de nuance-là, de gars-filles. Ça prend du temps avant de s'en rendre compte. Je pense quand on s'est fait demander de venir ici pour parler d'un point de vue féministe, je me suis dit, mais de quoi on va parler, tu sais, finalement. Mais c'est après une réflexion qu'on finit par le comprendre. Donc, je pense que différence joueur-joueuse n'est pas si présente de prime abord. Là.
OK. Tu peux intervenir, Ariane?
Oui, bien, en fait, j'allais dire que, en fait, on pense qu'il n'y en a pas de différence, mais en réalité, je crois qu'il y en a une, mais que ça fait tellement longtemps qu'on gravite dans ce milieu-là qu'on s'en rend plus tellement compte. Mm. Quand on a commencé, il y a plusieurs années, toutes les filles ici, je pense que la différence était encore plus marquée, mais heureusement, je crois qu'il y a tendance à une diminution entre cette distinction-là, entre improvisateur et improvisatrice. Mm-hmm. Par exemple, moi, quand j'arbitre au secondaire, je trouve que les filles ont de plus en plus de place. Je sens que c'est de moins en moins forcé d'intégrer les filles dans une équipe d'improvisation parce que je pense qu'on l'a toutes vécu d'être choisi dans une ligue parce qu'il manquait de filles, d'être dans une équipe parce qu'il manquait de filles. La différence, elle est là, elle est au niveau du nombre de joueurs, je pense, à la base. Donc, voilà.
Tu voulais ajouter quelque chose, Geneviève?
Ben moi, tu sais, je suis quand même une vieille dame. Tu sais, je veux dire, ça fait quand même... j'ai commencé à faire de l'impro en 1988, donc ça vous donne un peu le topo. Puis... il y avait, à l'époque, je me rappelle, à l'allée à Saint-Hyacinthe, des fois, on était... il y avait 6 gars, 2 filles. Puis, on se retrouvait à faire ces rôles-là de clichés féminins, de l'infirmière, la maman, la femme autoritaire. T'sais, je trouvais qu'on était limité. C'est vrai que ça a vraiment évolué. Moi, je vois une nette différence entre les années 90 puis aujourd'hui. Mais quand même, dans certaines ligues encore, il y a... je remarque que dans la remise des trophées, souvent, il va y avoir joueuse de l'année, joueur de l'année, mais meilleur puncheur, puncheuse, c'est un gars qui va l'avoir. Mm-hmm. Meilleur, tu sais, souvent, les trophées qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre vont être donnés souvent aux garçons.
Puis vous avez parlé un peu aussi de la différence. Là, tu parlais de notamment Ariane au secondaire. Je me demandais, est-ce que la place des femmes en improvisation, elle est différente selon si on joue dans une ligue universitaire, une ligue collégiale ou une ligue de bord? Mm-hmm. Tu voulais intervenir, oui, Roxane?
Je joue avec Geneviève dans une ligue de bar, justement, puis c'est mon sentiment, mais pour avoir fait quelques ligues, pour avoir joué au secondaire dans le contexte universitaire, on choisit nos ligues en tant qu'adulte, tu sais, là, c'est pas comme j'ai juste une école secondaire, donc je vais jouer à l'école secondaire. Donc, on a la chance de jouer dans une ligue où, justement, il y a une certaine parité dans les équipes, où les gars se prêtent au jeu et ont pas nécessairement de la difficulté à jouer des filles, ou si nous, on veut jouer des gars, ils vont pas nous dire « Ah ben ça, ça se fait pas ». Mais je l'ai vu dans des ligues, ça, où des gars se froissaient comme « Hey, tu m'as imposé un rôle de femme », tu sais, parce que souvent, on se tend des perches en impro en disant « Ah, ma mère va arriver ». Puis ça veut dire qu'il y a un joueur dans mon équipe qui nécessairement va jouer la mère qui doit arriver, tu sais, puis là, il y a juste des gars dans mon équipe et qui se retrouvent un peu comme frustrés parce qu'il faut qu'ils jouent la mère, mais je suis comme « Hey, on est en impro, là, il y a pas de genre, tu sais, c'est on joue le rôle, fait qu'on est chanceux d'avoir ça dans notre ligue, en fait, là. Je pense que chaque ligue est très différente. Il y a des ligues, il y a des tournois féminins aussi, ça c'est vraiment hot, c'est récent, moi je savais même pas que ça existait, ce tournoi-là qui est
la Diva Cup,
ça c'est vraiment cool, mais tu sais, pour revenir sur l'idée du secondaire, c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire de l'impro, il y avait pas énormément de filles, puis c'était par défaut qu'on était choisis dans une ligue, puis quand on montrait qu'on avait du talent, là tout d'un coup on nous donnait de la place, tu sais.
Parce qu'au secondaire, je prends l'exemple d'une réglementation que je connais bien, celle du Réseau du sport étudiant du Québec. C'est une des seules ligues au secondaire, à ma connaissance, où il n'y a pas de règlement quant au nombre minimum de joueurs d'un sexe ou de l'autre. Mais c'est très fréquent dans les tournois. Au niveau collégial, je pense que c'est le cas aussi. Oui. Donc, c'est de dire, « Hey, on va vous imposer d'avoir des filles, puis ça se peut qu'ils se retrouvent là parce que c'était les seules qui étaient venues au camp, mais avoir eu le choix, hey, on aurait pris des gars à la place. »
OK, merci, Ariane. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des différences sur la glace? Donc, en matière de présentation, de personnage, de charisme, d'humour, entre ce qu'on s'attend d'un improvisateur puis ce qu'on s'attend d'une improvisatrice ou ce qu'on se sent le droit de faire comme improvisateur ou comme improvisatrice, là, selon les ligues aussi, j'imagine. Geneviève?
Mais moi, ce qui est un peu triste, puis à un moment donné, c'est un formateur en improvisation, Monsieur Roberto Sierra, qui m'avait dit, Geneviève, on dirait que quand tu joues à l'impro... tu punches, mais tu joues comme si tu allais jouer ta vie. Puis, j'ai réfléchi à ça, puis je pense que c'est parce que moi, j'ai eu à me battre beaucoup quand je jouais, mettons, à l'allée dans les années 90, j'ai eu à me battre pour faire ma place. Ce qui fait que des fois, je trouve que je joue un peu comme un troqueur, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, j'y vais, puis à fond la caisse. Je dirais que la femme se remet plus en question en impro que le garçon. Mm. Ce qui peut influencer plus son match. Mm. On dirait que le garçon, l'impro est terminé, c'est terminé, et il n'y a pas de culpabilité.
Puis pourquoi?
Ben, en général,
tu sais, je veux pas. En général, on pose une question dans un cours. C'est rare que les filles vont lever leur main en premier. Tu sais, faut que notre réponse soit claire. Faut qu'on ait pensé à notre phrase. Faut que ce soit, tu sais.
On est dur envers soi-même. Vraiment. C'est ça. Tu sais. Puis j'ai l'impression aussi que quand une fille va dans le cru ou quoi que ce soit en impro, tout d'un coup là, la foule vire en délire, tu sais, dans le sens que c'est quasiment comme si les gars, ben, c'était attendu de eux. Mais moi, admettons, quand je fais une joke punchée crue, que je vais parler de sexualité ou de trucs comme ça, là, le monde vire un peu crazy, s'attendait pas à ce que ça sorte de la bouche de... Tu sais, c'est drôle comment des... Moi, je suis comme... Oh, je parle de même tous les jours, tu sais, je veux dire, who cares? Puis là, je fais ça en impro, puis d'un coup, c'est comme, waouh! Tu sais, c'est pas ça que je veux chercher, tu sais, j'essaie pas de puncher, mais
ouais.
Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Tu l'as ajouté quelque chose, Frédéric?
Oui, mais en fait, je pense que ça peut être à double tranchant pour les filles, autant on s'attend pas à ça de nous, fait que ça peut être un effet de surprise, puis que le gag va ressortir 15 fois plus, autant que des fois, on va simplement pas porter attention au gang que tu vas dire ou de la phrase que tu vas dire. Moi, je suis beaucoup une joueuse de l'ombre, là, que je suis derrière, puis je vais supporter l'histoire beaucoup. Mais des fois, je suis capable d'en faire des blagues, sauf qu'on prend un peu pour acquis que j'en dirai pas des blagues. Fait que si je parle un petit peu, puis qu'il y a quelqu'un qui me coupe à moitié ou quoi que ce soit, je perds tout de suite mon moment. Donc, c'est à double tranchant, cette affaire-là, d'être une fille. Fait qu'on s'attend à ça, on s'attend à ce que tu nous surprennes, mais en même temps, on te laisse pas tant la chance de nous surprendre. Il y a un peu des deux, je pense.
Vraiment, un genre de double contrainte.
Comme les catégories dramatiques, en fait. T'sais, pour les femmes, on s'attend... j'ai rarement vu dans un caucus un gars proposer « Hey, selon la fête dramatique ». C'est une super belle catégorie en impro. Puis moi, c'est le truc qui me fait un peu plus de peine. J'ai l'impression qu'on l'utilise pas assez. T'sais, dans l'impro, on va se dire « Ah, oh, ça va être des gags drôles ». Mais il y a tellement de place à ce que ça soit pas... de l'humour tout le temps, tu sais. Puis rarement, j'ai vu un gars dire « On s'en va dans une catégorie plus real, tu sais, plus dramatique, tu sais. » Encore là, je sais pas pourquoi.
Puis vous avez un peu effleuré le sujet tantôt. Vous parliez que, bon, vous choisissiez les ligues en fonction aussi, mais généralement, donc, il y a plus de joueurs que de joueuses en impro. Pourquoi c'est comme ça, selon vous?
Ben, moi, je vais me permettre de dire que c'est comme ça dans le milieu de l'impro parce que c'est un milieu d'art de la scène, puis que dans les arts de la scène, en général, je pense que c'est un milieu qui a été longtemps réservé aux hommes. Puis je parle de ça en disant, aussi en faisant référence au théâtre québécois, là, j'en parlais ce matin dans un de mes cours à l'université, puis il y a des femmes qui faisaient partie du grand cycle ordinaire fin des années 60 qui travaillaient avec des hommes. Utilisaient le principe de la création collective, donc de l'improvisation pour créer leur spectacle. Puis, pour les hommes, il fallait que ça se fasse rapidement dans l'efficacité, puis tout ça. Puis, pour les femmes, c'était plus difficile. Ce qu'elles ont dit pour l'expliquer, c'est que les hommes, ils ont un garde-robe de personnages tellement grand. Dans un Shakespeare, t'as 20 personnages masculins pour 3 personnages féminins, ou à peu près. Donc, les hommes ont la liberté de piger dans ce grand répertoire-là de personnages. Et les femmes, elles ont à construire ce garde-robe de personnages-là. Mais tout ça pour dire que le milieu théâtral, le milieu des arts de la scène, de performance, a été longtemps un milieu comme ça.
C'est comme tu disais tantôt, Geneviève, excuse-moi. Tu l'as dit tantôt, c'est comme, on dirait que la femme, si automatiquement, va jouer la nunuche, la mère. Tu sais, comme on dirait que nos rôles sont déjà préétablis, un peu comme dans la société. Tu sais, dans le sens que nécessairement, une femme va jouer ces 5 rôles-là, comme tu dis exactement, tandis que les gars, c'est... Mais encore là, c'est peut-être à nous de... Je sais pas, je dis ça, puis je suis comme... peut-être que je fais pas assez de personnages diversifiés.
Mais c'est... Merci, Roxane. Merci, Ariane. C'est intéressant ce que vous dites. Geneviève, tu voulais ajouter quelque chose?
Bien, je pense qu'il y a aussi une part de... la femme... j'en ai parlé, là, de la culpabilité, mais il y a aussi que la femme, je pense, est plus sensible au jugement d'autrui. Or, l'impro, je me souviens, j'avais lu ça, je pense que c'est Diane Jules, la Hélénie, qui avait dit ça. Tu sais, l'impro, il faut beaucoup d'ego pour dire, moi, ce soir, je serai une bonne joueuse d'impro. Mais en même temps, il faut de l'humilité. Tu sais, pour ce, tu sais, parce que ça se peut que tu ailles te faire démolir. Puis je me souviens à l'époque, quand on se faisait lancer des claques, quand c'était pas bon, tu sais. Il faut les deux. Puis les femmes, au niveau de la culpabilité, au niveau de l'ego, des fois, je pense que c'est peut-être moins élevé. Puis j'avais cette discussion-là, moi, tu vois, avec un chauffeur de taxi, parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais célibataire. Et je lui disais, la femme drôle au Québec, c'est pas si valorisé que ça. Je pense que la femme drôle au Québec fait un peu peur. Quand une femme est plus drôle qu'un gars, tu sais, ça devient one of the boys, je sais pas, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a tout ça aussi, tu sais. Mais bon, voilà. Je suis en train de raconter ma vie.
Non, c'est intéressant aussi. Puis, ben, tu l'as nommé un peu, Roxane, là, en parlant tantôt des improvisations dramatiques, mais ça rejoint quelque chose que je voulais vous demander. Je me demandais, est-ce qu'il y a des types d'improvisations qui sont plus souvent ou typiquement réalisées par des femmes ou des hommes? Je pense notamment poésie, chanter, etc. Si oui, lesquelles sont souvent assignées aux femmes, lesquelles aux hommes? Pourquoi, selon vous?
La dramatique, c'était celle qui venait vraiment en tête, mais sinon, en général, tu sais, les chanter...
Moi, chanter, je trouve que c'est plus des filles souvent que des gars, de mon expérience. Tout ce qui est un peu
poétique
les manières imposées, souvent, quand c'est des styles un peu plus théâtral, souvent, ça va être plus des filles qui vont faire ces catégories-là. Puis les gars vont être plus à l'aise dans des catégories où est-ce que ça se passe rapidement.
Par exemple, quick change,
où est-ce qu'à chaque fois que l'arbitre siffle, le joueur doit changer la fin de sa dernière réplique. Ou, par exemple, une variation sur un même thème, où est-ce que tu dois faire plusieurs trucs différents. Les exagérations. Il y a aussi la déjà-vue, que tu reprends la même improvisation, mais avec des manières différentes imposées. C'est souvent des courtes improvisations d'une minute, puis tu reprends ton impro avec une manière différente. Puis l'idée, c'est de puncher sur ton impro que tu as fait précédemment en ajoutant des éléments de la nouvelle contrainte.
Donc, femme plus théâtre, homme plus punch, un peu, si on veut.
En général.
Frédéric.
Mais dans le fond, moi, pendant qu'on parle de ça, je me demande si on n'a pas encore un lien à faire avec l'ego, tu sais, puis l'humilité, tout ça, ces affaires-là. Est-ce que les filles, on a plus peur du jugement, donc on va pas se lancer dans des catégories où c'est vraiment plus facile de s'enfarger? On va prendre des catégories où on est sûr de. On sait qu'on est en contrôle, puis on sait qu'on est capable de faire des belles phrases poétiques, puis qu'on va aller le faire. Mais moi, si tu me demandes une quick change, puis. Si je suis pas à l'aise, ben je vais pas y aller, je vais pas me lancer alors que je serais très capable de le faire. Là.
Mais en même temps, je pense que les gars ont cette réflexion-là aussi de dire « Ah, j'irai pas faire la dramatique parce que je suis pas à l'aise, fait que je vais aller... » Tu sais, j'imagine qu'à force d'exister ces deux catégories, types d'improvisation théâtrale puis plus punch, je pense que nous aussi, on finit par se conforter, autant gars que filles, dans ces catégories-là, puis on finit par se dire « Hey, c'est ça qu'on va faire pendant le match, puis c'est ça. »
Tu t'en fais jamais, fait que t'es jamais bon, tu sais, un peu ça aussi.
Ouais, je vois le pattern. En terminant, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les femmes en improvisation par rapport à l'espace qu'elles occupent présentement? Oui?
Ben moi, je dirais que je souhaite... Moi, aujourd'hui, tu sais, je sens pas, à moins que je joue, puis là, je vais dire avec des gars de mon âge en impro... Avec les plus jeunes, je sens pas le fait que t'es une femme, donc t'es moins drôle. Mais avec des garçons plus vieux, des fois, il y a une petite mentalité de mon oncle là, qui s'installe. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on ait plus besoin de mentionner ça, tu sais. On n'a plus besoin de... que cette discussion-là n'existe plus. C'est-à-dire que t'es un joueur ou une joueuse d'impro, point final, tu sais. Ça, ce serait la plus belle chose qui pourrait arriver.
Un petit dernier mot en terminant, Ariane?
Oui, j'allais dire que, dans le fond, on finisse par se débarrasser de ces catégories-là qui sont un peu nos pantoufles, puis qu'on fasse, pour une fois, de l'impro pour les bonnes raisons, c'est-à-dire essayer des affaires, puis peut-être se planter des fois, puis que ce soit correct, que ce soit un gars ou une fille qui se plante.
Ben, un grand merci à vous quatre, Geneviève Fortier, Roxane Geoffroy, Frédéric Lemay, Ariane Charret. Merci de vous être prêtés au jeu de l'improvisation radiophonique puis d'avoir accepté aussi de partager avec nous votre expérience, votre point de vue sur le milieu de l'improvisation au Québec.
Merci à toi.
Merci. mañana te agarra del pie. Pasado te ha chupado entero. La vida no le dejó nada al amor. La vida te toma la mano. Mañana te agarra del pie. Pasado te ha chupado entero. La vida no le zapatos gastados, lo guardé para que veas que me porto bien. Café con pan, café con pan, café con pan, la vida te toma la mano, la vida te. Mañana te agarra del pie. Pasado te ha chupado entero. No le dejo nada a la muerte. La vida te toma la mano. Mañana te agarra del pie. Pasado te ha chupado entero. No le dejo nada a la muerte.
On écoutait Son de la Vida de Pascuala, Ibalaca y Fauna. Il est présentement 18h43. Eve et Pandore se poursuit sur les ondes de CKUT 90,3 FM jusqu'à 19h. Ici Audrey Gosselin-Pellerin à l'animation. Je suis toujours en compagnie de Marianne Théberge-Guyon et de Laurence Morin. L'autrice Marie Darcini s'est également jointe à nous. Diplômée en création littéraire de l'Université du Québec à Montréal, l'écrivaine et poète féministe est cofondatrice de Fémicile, une plateforme de publication sur la littérature pour des femmes, par des femmes. Donc, Laurence, en plus de collaborer à différents magazines, Marie Darcini publie cet automne le livre 30.
Oui, Audrey, 30 est une autofiction sous forme de journal intime qui documente la 29e année, là, tu l'as dit, de sa narratrice, qu'elle veut être et croit être sa dernière. Il entremêle les récits sombres de ses muses désespérées, Marie-Cécile Abrèche, Elisabeth Bourdiel, Nelly Arcan, pour ne nommer qu'elle. Le livre pose donc des questions de fond à notre société et à sa promesse éphémère de bonheur. C'est ce point de départ qu'on va approfondir avec Marie Darcini. Donc, bonjour Marie, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de ton livre.
Bonjour, merci.
Sans plus tarder, on voulait commencer avec une première lecture d'un fragment de ton livre pour mettre nos chères auditrices et auditeurs en haleine. Je te laisse donc la parole.
Parfait. Je vais lire à la page 132, au cas où quelqu'un veuille vraiment suivre. Même s'il est évident que je romance ma dépression, cela ne veut pas dire pour autant que je désire me retrouver dans un épisode d'Intervention. Le miroir devant mon bureau me renvoie mon image lorsque je me penche sur les minces lignes découpées sur le dos d'un ouvrage de théorie féministe. J'entr'ouvre la fenêtre par laquelle je souffle la fumée de ma cigarette qui pend de façon négligée au bord de mes lèvres. J'aime me complaire dans mes vices. À vrai dire, j'exécute même une petite danse à chaque fois que je me lève de ma chaise après avoir consommé. Je me prends pour Beyoncé alors que je suis plutôt Lindsay Lohan. D'ailleurs, on me poserait la question et je ne sais même pas si je dirais oui à la Betty Ford Clinic ou Bermuda Ranch, Florida, au Sunset Center of Healing. Je ne sais pas si j'oserais le faire pour moi. Pour qui au juste est-ce que je prendrais la décision d'aller mieux? Pourtant, il ne faut pas croire que je n'ai jamais fait d'effort dans ce sens-là. Au contraire, ma vie entière est une thérapie, une longue analyse où je dissèque les causes de mon mal sans jamais vraiment arriver à mettre le doigt sur la plaie. Cette plaie béante dont l'emplacement change à tous les jours, mon corps entier est à vif, sans vêtements, sans peau, sans carapace, sans armure, sans rien pour me protéger de la vie qui m'attaque de tous les bords et de tous les côtés. Moi entière, je suis une plaie. I am the wound, écrivait Lina Dunham. J'en suis consciente. Je trimballe mon grand malheur comme Félix Leclerc trimballe son petit bonheur.
Merci Marie, c'est vraiment poignant comme écriture. Justement, un des aspects de ton livre qui nous a beaucoup interpellés en tant que femme et féministe, c'est cette thématique du négatif, là, de la souffrance que tu traites dans 30, en tant que femme écrivaine, justement. Puis, tu écris vers la fin du livre, je ne sais pas exactement la même citation, mais tu écris, puis je te cite, « Je développe des arguments qui permettent l'existence d'un espace où être non heureuse est un choix politique ou une liberté à prendre. » Bon, tu réfères à plusieurs reprises à des autrices comme Amy Berkowitz, Judith Halberstam, Yalcy Salek, qui introduisent ou qui se réclament, bon, entre autres, de la Sad Girl Theories, de la Killjoy féministe. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette posture qui fait de la dépression un mode de résistance au phénomène de pression?
Oui, en fait, il y a aussi une autre théoricienne à laquelle je fais souvent référence que t'as pas nommée, c'est Sarah Ahmed. Puis elle a un livre qui s'appelle La promesse du bonheur, The Promise of Happiness. Puis dedans, elle parle vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que c'était, en gros, un peu contre le discours ambiant de le bonheur est accessible pour tous et pour toutes. Si tu veux l'acheter, en fait, le mot acheter est quand même important aussi. Tu peux, mais c'est vraiment pas vrai parce que qui peut se l'acheter, qui veut l'acheter. Fait que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis c'est à partir de ça que j'ai construit ma posture sur, dans le fond, la résistance puis la négativité. Puis aussi, comme t'as dit, Jack Halberstam, t'as dit Judith, mais cette personne-là, dans le fond, a écrit sous plusieurs noms.
Okay.
Puis maintenant, elle s'identifie à Jack Halberstam. C'est vraiment pas grave. Je vais juste le préciser pour les auditeurs auditrices.
Tant mieux, mais oui.
Puis c'est ça. Fait que dans le fond, Jack Halberstam aussi a parlé des shadow feminism, comme les féminismes de l'ombre. Puis ça m'a aussi vraiment inspiré du fait que on n'est pas obligé d'être toujours dans l'extra positivisme positivité. Oh mon Dieu. Moi, c'est ça. Je suis moitié anglo-franco. Je suis tout le temps perdue. Mais donc on peut être négative et aussi en prise de pouvoir.
Ben justement, est-ce que l'écriture, c'est une thérapie pour toi?
Oui, c'est sûr que ça a l'air un peu quétaine de le dire de même, mais je dirais que c'est pas tant pour moi que pour les autres aussi, là. Je veux pas non plus avoir l'air de super altruiste. C'est pour moi et pour les autres, dans le sens, si moi ça me fait du bien et si ça fait du bien aux autres personnes qui vont me lire puis se reconnaître là-dedans, tant mieux, tu sais. Je pense pas qu'on écrit dans un vide. On écrit un peu pour ça, dans le fond, tout le monde, là.
Oui, puis en quoi les dépressives ou les malheureuses sont-elles des résistantes, puis à quoi elles résistent?
Je pense que une piste de réflexion, ça pourrait être tel que le nom, je crois que c'est Anne Svetkovitch dans Depression and Public Feeling. Elle explique que, dans le fond, la dépression peut être en réponse à des systèmes d'oppression comme le capitalisme puis la société, comme néolibéral, patriarcal, blablabla. Que c'est pas seulement d'être déprimé ou en dépression, c'est pas seulement un truc chimique dans ton cerveau médical, ça peut aussi être une posture. Puis je pense que c'est comme ça, dans le fond, que je peux répondre à ta question en pensant à toutes les façons qu'on peut être malade, mais en même temps, comme essayer de retrouver du pouvoir là-dedans.
Justement, là, dans ton livre, tu déconstruis là, cette idée-là de la dépression comme un phénomène qui serait strictement biologique. Mm-hmm. Est-ce que les femmes ont un rapport particulier dans notre société à la douleur, au malheur, si on garde cette idée-là d'une conception plus sociale ou culturelle de la dépression?
Je pense que oui. Pour la dépression, oui. Aussi que la douleur des femmes n'est jamais vraiment prise au sérieux. Il y a beaucoup d'articles là, qu'on peut lire sur des personnes, mais souvent des femmes qui sont allées à l'hôpital avec des mots puis qui n'ont pas été prises au sérieux. On peut penser aussi, dans le fond, t'as nommé Amy Berkowitz, que je cite beaucoup. Dans le fond, elle vit avec la fibromyalgie, puis c'est vraiment une maladie invisible et une maladie fourre-tout qu'elle explique, parce que quand les médecins, souvent, ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec le corps d'une femme qui souffre, ils vont dire « Ah, tu fais de la fibro, dans le fond. » Fait que c'est elle s'identifie beaucoup à ce diagnostic-là, mais est vraiment consciente que ça peut être vraiment n'importe quoi pour n'importe qui. Là.
Puis justement, là, tu nous dis qu'on réfléchit souvent l'expression notamment littéraire de la souffrance comme imaginée, exagérée. Là, c'est un peu ce que tu nous dis par rapport à Berkowitz.
Mm-hmm.
Puis je me demandais, qu'est-ce que tu réponds à celles et à ceux qui te diraient que ton écriture est
c'est d'exposer des malheurs, par exemple.
Ça gratte le bobo. Ouais. Mais je pense que c'est important de le faire parce que la guérison, pour n'importe quoi, là, même des maux physiques, c'est pas vraiment linéaire. Là. C'est normal que ça, c'est en haut puis en bas. Puis, je pense pas qu'il y a juste une façon de guérir, que ce soit de la dépression ou de n'importe de quoi. Particulièrement, en fait, des problèmes de santé mentale parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas tant que ça. Puis c'est par la nature aussi, tu sais. Il n'y a pas juste une recette. Là. Encore là, t'sais, on ne sait pas peut-être les maladies physiques. En Occident, on traite ça vraiment d'une façon, mais si tu regardes ailleurs dans le monde, c'est vraiment, t'sais, il y a plein de façons là, d'aborder ça. Là. Fait que, je pense que c'est important de se garder ouverte à ces perspectives-là.
Puis, tu présentes ton livre 30 là, comme une autofiction. Donc, la narratrice s'appelle Marie. Mm-hmm. Comme lectrice, on a tendance à faire des parallèles, évidemment, donc entre la personnage du livre et toi, l'autrice. Est-ce que tu peux nous parler des liens que tu... entre le personnage et l'autrice?
Bien, au-delà de faire freaker ma famille, j'ai essayé de puiser dans mon expérience personnelle, c'est sûr, mais aussi de changer des trucs. Je pense que je pourrais jamais écrire de la non-fiction parce que ça demande vraiment... Il faut vraiment être rigoureuse dans la non-fiction au sens où tu peux pas rien inventer. Là. Toutes les gens que tu fais intervenir, il faut que ce soit quasiment des citations texto. Puis moi, j'ai tendance à... Tu sais, déjà dans ma vie de tous les jours, j'ai tendance à tout romancer, j'ai tendance à exagérer. Fait que qu'est-ce que j'ai fait dans 30? J'ai pris mon expérience, puis j'ai juste comme... Je pense que je l'ai dit peut-être dans le livre. Le dimmer à 10 sur mes expériences personnelles. Tu sais, juste pour tout exagérer, puis tout pousser ça à l'extrême pour voir qu'est-ce que ça allait donner.
Puis en terminant, c'est déjà presque la fin, est-ce que tu as pensé à un après 30? Est-ce que tu as des projets artistiques à venir?
Ouais, ben c'est sûr que je pense que c'est un sujet qui pourrait être creusé sans fin là. En fait, je savais même pas comment arrêter ce livre-là. Mais je pense qu'il y a une autre chose que je touche un peu à ça dans 30, mais que c'est pas le sujet principal, c'est la dépendance, puis ça m'intéresse vraiment beaucoup aussi parce que tu sais, les gens souvent qui ont des problèmes de santé mentale vont essayer de s'auto-médicamenter. Mm-hmm. Fait que j'aimerais ça me pencher là-dessus éventuellement dans un prochain ouvrage là, la dépendance puis les façons dont on réagit en société par rapport à ça.
Bon, ben au nom de l'équipe d'Ève et Pandore, je te remercie beaucoup, Marie Darcigny, pour ta participation et tes explications autour de ton tout nouveau livre 30. Je vous rappelle que vous pouvez, chers auditeurs et auditrices, vous procurer 30 en librairie et lire également les textes de Marie Darcigny, dont, entre autres sur Urbania dans Fémicile ou encore dans ses recueils de poésie Fille et A Little Death Around the Heart. Vous pouvez aussi la rencontrer au Salon du Livre le jeudi 15 novembre à 20h. Elle va être en compagnie de Martine Delvaux et elles vont discuter de la fille comme figure littéraire. Encore une fois, Marie Darcigny, merci beaucoup. Puis on se laisse sur une dernière lecture d'un extrait de 30.
Oui, en fait, c'est la suite de « Qu'est-ce que je lisais tantôt? » Donc, « Mon grand malheur et moi sommes inséparables, des siamois qui vous fixent à travers la vitrine de l'animalerie, un spécial 2-pour-1 aux Ardennes, les jumelles dans le film The Shining. Oui, mon malheur et moi sommes ensemble pour toujours. Une union toxique qu'il est impossible de défaire, même si vous vous asseyez dans ma cuisine en me suppliant d'agir, même si vous m'implorez de me prendre en main ou toute autre expression qui pour moi ne veut rien dire, même si vous me taraudez avec votre pensée magique et vos bonnes intentions, même si vous tentez de me convaincre avec vos livres de self-help et vos vidéos YouTube de méditation guidée, alors que je sais très bien que c'est peine perdue, la peine je connais ça. S'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que ma peine est là pour rester, mon malheur ne veut pas s'en aller. « How do we talk about these wounds without glamorizing them? » demande Leslie Jamieson. Là est la question, et même s'il est évident que je romance ma douleur, cela ne veut pas dire pour autant que je suis prête à faire une apparition au Murray Show. Non, en termes d'être, au plus, tout ce que je ferai, ce sera de m'ouvrir à vous sur papier. Comme une coupure, une incision mettant au grand jour mon vide existentiel, vous vous pencherez sur la table d'opération en disant, comme on disait à Elizabeth Wurzel, « She was so full of promises ». Mais la seule promesse que je vous fais, c'est celle de m'éteindre un jour, bientôt, je le sens, je vais m'effacer dans le néant de mes 30 ans. Il s'agit seulement d'attendre le bon moment, quelques mois, quelques jours, quelques minutes, lentement mais sûrement, inexorablement.
Merci Marie.
Merci.
Il est presque 19h. Voilà ce qui conclut Ève et Pandore. J'espère que l'émission vous a plu. Mon nom est Audrey Gosselin-Pellerin et c'était vraiment un pur plaisir d'animer cette édition-ci avec vous toutes. Franchement, bravo. Je suis très fière. Merci beaucoup à Tamara Filiavitch qui était à la mise en onde, à mes consoeurs Laurence Morin et Marianne Théberge-Guyon du collectif Ève et Pandore. On remercie également nos improvisatrices Ariane Charret, Geneviève Fortier, Roxane Geoffroy, Frédéric Lemay, le public qui était là aussi. Merci de vous être déplacés. Et un grand merci également à Marie Darcigny pour ses lectures et ses réponses approfondies.
Merci.
N'oubliez pas de vous abonner à Ève et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futures éditions. Les émissions d'Ève et Pandore sont également archivées sur le site de CKUT et sur Mixcloud. Donc, pour tous les détails de l'émission, pour commenter, surveiller notre page Facebook, la page d'Ève et Pandore, et dans quelques secondes, Aman la suivra. Ève et Pandore est de retour sur les ondes de CKUT le 23 janvier 2019. Mettez ça à votre agenda. On se dit bientôt et on a déjà hâte de vous retrouver.